L'abbé Carlos Herrera. Cet individu est certainement le nommé Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, dont la dernière arrestation remonte à l'année 1819 et fut opérée au domicile d'une dame Vauquet, tenant pension bourgeoise rue Neuve-Sainte-Geneviève, et où il demeurait caché sous le nom de Vautrin. En marge, on lisait de la main du préfet de police. Ordre a été transmis par le télégraphe à Bibi Lupin, chef de la sûreté, de revenir immédiatement pour aider à la confrontation, car il connaît personnellement Jacques Collin, qui l'a fait arrêter en 1819 avec le concours d'une demoiselle Michonneau. Les pensionnaires qui logeaient dans la maison Vauquet existent encore et peuvent être cités pour établir l'identité. Le soi-disant Carlos Herrera est l'ami intime, le conseiller de M. Lucien de Rubempré, à qui pendant 3 ans, il a fourni des sommes considérables, évidemment provenues de vol. Cette solidarité, si l'on établit l'identité du soi-disant Espagnol et de Jacques Collin, sera la condamnation du sieur Lucien de Rubempré. La mort subite de l'agent Peyrade est due à un empoisonnement consommé par Jacques Collin, par Rubempré ou leurs affidés. La raison de cet assassinat vient de ce que l'agent était depuis longtemps sur les traces de ces deux habiles criminels. En marge, le magistrat montra cette phrase écrite par le préfet de police lui-même. « Ceci est à ma connaissance personnelle, et j'ai la certitude que le sieur Lucien de Rubempré s'est indignement joué de sa seigneurie le comte de Sérisy et de monsieur le procureur général. » « Qu'en dis-tu, Amélie ?»«
C'est effrayant !» répondit la femme du juge.
« Achève donc !» La substitution du prêtre espagnol au forçat Collin est le résultat de quelques crimes plus habilement commis que celui par lequel Cognard s'est fait comte de Sainte-Hélène. Lucien de Rubempré. Lucien Chardon, fils d'un apothicaire d'Angoulême et dont la mère est une demoiselle de Rubempré, doit à une ordonnance du roi le droit de porter le nom de Rubempré. Cette ordonnance a été accordée à la sollicitation de Madame la Duchesse de Maufrigneuse et de Monsieur le Comte de Sérisy. En 1820, ce jeune homme est venu à Paris sans aucun moyen d'existence, à la suite de Madame la Comtesse Sixte du Châtelet, alors Madame de Bargeton, cousine de Madame d'Espard. Ingrat envers Madame de Bargeton, il a vécu maritalement avec une demoiselle Coralie, décédée, actrice du gymnase, qui a quitté pour lui M. Camusot, marchand de soierie de la rue des Bourdonnais. Bientôt, plongé dans la misère par l'insuffisance des secours que lui donnait cette actrice, il a compromis gravement son honorable beau-frère, imprimeur à Angoulême, en émettant de faux billets pour le paiement desquels David Séchard fut arrêté pendant un court séjour du dit Lucien à Angoulême. Cette affaire a déterminé la fuite de Rubempré, qui a subitement reparu à Paris avec l'abbé Carlos Herrera. Sans moyen d'existence connu, le sieur Lucien a dépensé en moyenne, durant les 3 premières années de son second séjour à Paris, environ 300 000 francs, qu'il n'a pu tenir que du soi-disant abbé Carlos Herrera. Mais à quel titre ? Il a en outre récemment employé plus d'un million à l'achat de la terre de Rubempré, pour obéir à une condition mise à son mariage avec mademoiselle Clotilde de Grandlieu. La rupture de ce mariage tient à ce que la famille Grandlieu, à laquelle le sieur Lucien avait dit tenir ses sommes de son beau-frère et de sa sœur, a fait prendre des informations auprès des respectables époux Séchard, notamment par l'avoué d'Herville. Et non seulement ils ignoraient ses acquisitions, mais encore ils croyaient Lucien excessivement endetté. D'ailleurs, la succession recueillie par les époux Séchard consiste en immeubles, et l'argent comptant, suivant leurs déclarations, montait à peine à 200 000 francs. Lucien vivait secrètement avec Esther Gobseck. Il est donc certain que toutes les profusions du baron de Nucingen, protecteur de cette demoiselle, ont été remises au dit Lucien. Lucien et son compagnon le forçat ont pu se soutenir plus longtemps que Cognard en face du monde, en tirant leurs ressources de la prostitution de la dite Esther,
autrefois fille soumise. Malgré les redites que ces notes produisent dans le récit du drame, il était nécessaire de les rapporter textuellement pour faire apercevoir le rôle de la police à Paris. La police a, comme on a déjà pu le voir d'ailleurs, d'après la note demandée sur Peyrade, des dossiers presque toujours exacts sur toutes les familles et sur tous les individus dont la vie est suspecte, dont les actions sont répréhensibles. Elle n'ignore rien de toutes les déviations. Ce calepin universel, bilan des consciences, est aussi bien tenu que l'est celui de la Banque de France sur les fortunes. De même que la banque pointe les plus légers retards en fait de paiement, soupèse tous les crédits, estime les capitalistes, suit de l'œil leurs opérations. De même, fait la police pour l'honnêteté des citoyens. En ceci, comme au palais, l'innocence n'a rien à craindre. Cette action ne s'exerce que sur les fautes. Quelque haut placée que soit une famille, elle ne saurait se garantir de cette providence sociale. La discrétion est d'ailleurs égale à l'étendue de ce pouvoir. Cette immense quantité de procès-verbaux, des commissaires de police, de rapports, de notes, de dossiers, cet océan de renseignements dort immobile, profond et calme comme la mer. Qu'un accident éclate, que le délit ou le crime se dresse, la justice fait appel à la police. Et aussitôt, s'il existe un dossier sur les inculpés, le juge en prend connaissance. Ces dossiers, où les antécédents sont analysés, ne sont que des renseignements qui meurent entre les murailles du palais. La justice n'en peut faire aucun usage légal. Elle s'en éclaire, elle s'en sert, voilà tout. Ces cartons fournissent en quelque sorte l'envers de la tapisserie des crimes. Leur cause première est presque toujours inédite. Aucun jury n'y croirait, le pays tout entier se soulèverait d'indignation si l'on en excipait dans le procès oral de la cour d'assises. C'est enfin la vérité condamnée à rester dans son puits, comme partout et toujours. Il n'est pas de magistrat, après 12 ans de pratique à Paris, qui ne sache que la cour d'assises, la police correctionnelle, cache la moitié de ses infamies, qui sont comme le lit sur lequel a couvé pendant longtemps le crime, et qui n'avoue que la justice ne punit pas la moitié des attentats commis. Si le public pouvait connaître jusqu'où va la discrétion des employés de la police qui ont de la mémoire, il révérerait ces braves gens à l'égal des cheveux. On croit la police astucieuse, machiavélique. Elle est d'une excessive bénignité. Seulement, elle écoute les passions dans leur paroxysme. Elle reçoit les délations et garde toutes ses notes. Elle n'est épouvantable que d'un côté. Ce qu'elle fait pour la justice, elle le fait aussi pour la politique. Mais en politique, elle est aussi cruelle, aussi partiale que feu l'Inquisition. Laissons cela, dit le juge en remettant les notes dans le dossier. C'est un secret entre la police et la justice. Le juge verra ce que cela vaut. Mais monsieur et madame Camusot n'en ont jamais rien su. As-tu besoin de me répéter cela ? Dit madame Camusot. Lucien est coupable, reprit le juge. Mais de quoi ? Un homme aimé par la duchesse de Maufrigneuse, par la comtesse de Sérisy, par Clotilde de Grandlieu, n'est pas coupable, répondit Amélie. L'autre doit tout avoir fait. Mais Lucien est complice, s'écria Camusot. Veux-tu m'en croire ? Dit Amélie. Rends le prêtre à la diplomatie, dont il est le plus bel ornement. Innocente ce petit misérable, et trouve d'autres coupables. Comme tu y vas, répondit le juge en souriant. Les femmes tendent au but à travers les lois, comme les oiseaux que rien n'arrête dans l'air. Mais, reprit Amélie, diplomate ou forçat, l'abbé Carlos te désignera quelqu'un pour se tirer d'affaire. Je ne suis qu'un bonnet. « Tu es la tête, » dit Camusot à sa femme. « Eh bien, la délibération est close. Viens embrasser Amélie. Il est 1 heure. » Et madame Camusot alla se coucher en laissant son mari mettre ses papiers et ses idées en ordre pour les interrogatoires à faire subir le lendemain aux deux prévenus. Donc, pendant que les paniers à salade emmenaient Jacques Collin et Lucien à la conciergerie, le juge d'instruction, après avoir déjeuné toutefois, traversait Paris à pied, selon la simplicité des mœurs adoptées par les magistrats parisiens, pour se rendre à son cabinet où déjà toutes les pièces de l'affaire étaient arrivées. Voici comment. Tous les juges d'instruction ont un commis greffier, espèce de secrétaire judiciaire assermenté dont la race se perpétue sans prime, sans encouragement, qui produit toujours d'excellents sujets, chez lequel le mutisme est naturel et absolu. L'on ignore au palais, depuis l'origine des parlements jusqu'aujourd'hui, l'exemple d'une indiscrétion commise par les greffiers commis aux instructions judiciaires. Gentil a vendu la quittance donnée à Semblancé par Louise de Savoie. Un commis de la guerre a vendu à Tchernychev le plan de la campagne de Russie. Tous ces traîtres étaient plus ou moins riches. La perspective d'une place au palais, celle d'un greffe, la conscience du métier, suffisent pour rendre le commis greffier d'un juge d'instruction le rival heureux de la tombe, car la tombe est devenue indiscrète depuis les progrès de la chimie. Cet employé, c'est la plume même du juge. Beaucoup de gens comprendront qu'on soit l'arbre de la machine et se demanderont comment on peut en rester l'écrou. Mais l'écrou se trouve heureux. Peut-être a-t-il peur de la machine. Le greffier de Camusot, jeune homme de 22 ans, nommé Coquart, était venu le matin prendre toutes les pièces et les notes du juge, et il avait déjà tout préparé dans le cabinet quand le magistrat allait flânant le long des quais, regardant des curiosités dans les boutiques et se demandant en lui-même « Comment s'y prendre avec un gaillard aussi fort que Jacques Collin en supposant que ce soit lui ?» Le chef de la sûreté le reconnaîtra. Je dois avoir l'air de faire mon métier, ne fût-ce que pour la police. Je vois tant d'impossibilités que le mieux serait d'éclairer la marquise et la duchesse en leur montrant les notes de la police, et je vengerai mon père, à qui Lucien a pris Coralie. En découvrant de si noirs scélérats, mon habileté sera proclamée, et Lucien sera bientôt régné par tous ses amis. Allons, l'interrogatoire en décidera. Il entra chez un marchand de curiosités, attiré par une horloge de boule. Ne pas mentir à ma conscience et servir les deux grandes dames, voilà un chef-d'œuvre d'habileté, pensait-il. Tiens, vous aussi, là, monsieur le procureur général, dit Camusot à haute voix, vous cherchez des médailles? C'est le goût de presque tous les justiciards, répondit en riant le comte de Granville, à cause des revers. Et après avoir regardé la boutique pendant quelques instants, comme s'il y achevait son examen, il emmena Camusot le long du quai, sans que Camusot pût croire à autre chose qu'à un hasard. « Vous allez interroger ce matin monsieur de Rubempré, » lui dit le procureur général. « Pauvre jeune homme, je l'aimais. »« Il y a bien des charges contre lui, » dit Camusot. « Oui, j'ai vu les notes de la police. » Mais elles sont dues en partie à un agent qui ne dépend pas de la préfecture, au fameux Corentin. Un homme qui a fait couper le cou à plus d'innocents que vous n'en verrez de coupables à l'échafaud. Mais ce drôle est hors de notre portée. Sans vouloir influencer la conscience d'un magistrat tel que vous, je ne peux pas m'empêcher de vous faire observer que si vous pouviez acquérir la conviction de l'ignorance de Lucien relativement au testament de cette fille, il en résulterait qu'il n'avait aucun intérêt à sa mort, car elle lui donnait prodigieusement d'argent. Nous avons la certitude de son absence pendant l'empoisonnement de cette Esther, dit Camusot. Il guettait à Fontainebleau le passage de Mademoiselle de Grandlieu et de la Duchesse de Lenoncourt. Oh, reprit le procureur général, il conservait sur son mariage avec Mademoiselle de Grandlieu de telles espérances. Je le tiens de la Duchesse de Grandlieu elle-même, qu'il n'est pas possible de supposer un garçon si spirituel, compromettant tout par un crime inutile. Oui, dit Camusot, surtout si cette Esther lui donnait tout ce qu'elle gagnait. Derville et Nucingen disent qu'elle est morte ignorant la succession qui lui était depuis longtemps échue, ajouta le procureur général. Mais à quoi croyez-vous donc alors? Demanda Camusot. Car il y a quelque chose. À un crime commis par les domestiques, répondit le procureur général. Malheureusement, fit observer Camusot, il est bien dans les mœurs de Jacques Collin, car le prêtre espagnol est bien certainement ce forçat évadé de prendre les 750 000 francs produits par la vente de l'inscription des rentes en 3% donnée par Nucingen. Vous pèserez tout, mon cher Camusot. Ayez de la prudence. L'abbé Carlos Herrera tient à la diplomatie. Mais un ambassadeur qui commettrait un crime ne serait pas sauvegardé par son caractère. Est-ce ou n'est-ce pas l'abbé Carlos Herrera? Voilà la question la plus importante. Et M. de Granville salua comme un homme qui ne veut pas de réponse. Lui aussi veut donc sauver Lucien, pensa Camusot, qui prit par le quai des lunettes pendant que le procureur général entrait au palais par la cour de Harley. Arrivé dans la cour de la conciergerie, Camusot entra chez le directeur de cette prison et l'emmena loin de toute oreille, au milieu du pavé. « Mon cher monsieur, faites-moi le plaisir d'aller à la force, savoir de votre collègue s'il a l'avantage de posséder en ce moment quelque forçat qui est habité, de 1810 à 1815, le bagne de Toulon. Voyez si vous en avez aussi chez vous. Nous ferons transférer ceux de la force ici pour quelques jours, et vous me direz si le prétendu prêtre espagnol sera reconnu par eux pour être Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort. Bien, monsieur Camusot, mais Bibi Lupin est arrivé. Ah, déjà ! S'écria le juge. Il était à Melun. On lui a dit qu'il s'agissait de Trompe-la-Mort. Il a souri de plaisir et il attend vos ordres. Envoyez-le-moi. Le directeur de la conciergerie put alors présenter au juge d'instruction la requête de Jacques Collin, en en peignant l'état déplorable. J'avais l'intention de l'interroger le premier, répondit le magistrat, mais non pas à cause de sa santé. J'ai reçu ce matin une note du directeur de la force. Or ce gaillard, qui dit être à l'agonie depuis 24 heures, a si bien dormi que l'on est entré dans son cabanon, à la force, sans qu'il entendît le médecin que le directeur avait envoyé chercher. Le médecin ne lui a même pas tâté le pouls, il l'a laissé dormir, ce qui prouve qu'il aurait une aussi bonne conscience qu'une bonne santé. Je ne vais croire à cette maladie que pour étudier le jeu de mon homme, dit en souriant Monsieur Camusot. On apprend tous les jours avec les prévenus et les accusés, fit observer le directeur de la conciergerie. La préfecture de police communique avec la conciergerie, et les magistrats de même que le directeur de la prison, par suite de la connaissance de ces passages souterrains, peuvent s'y rendre avec une excessive promptitude. Ainsi s'explique la facilité miraculeuse avec laquelle le ministère public et les présidents de la cour d'assises peuvent, séance tenante, avoir certains renseignements. Aussi, quand M. Camusot fut en haut de l'escalier qui menait à son cabinet, trouva-t-il Bibi Lupin, accouru par la salle des pas perdus. « Quel zèle !» lui dit le juge en souriant. « Ah, c'est que si c'est lui !» répondit le chef de la sûreté. « Vous verrez une terrible danse au préau, pour peu qu'il y ait des chevaux de retour. » Ancien forçat en argot. Et pourquoi? Trompe-la-Mort a mangé la grenouille, et je sais qu'ils ont juré de l'exterminer. Il signifiait les forçats dont le trésor, confié depuis 20 ans à Trompe-la-Mort, avait été dissipé pour Lucien, comme on le sait. Pourriez-vous retrouver des témoins de sa dernière arrestation? Donnez-moi 2 citations de témoins, et je vous en amène aujourd'hui. « Cocard, dit le juge en ôtant ses gants, mettant sa canne et son chapeau dans un coin, remplissez 2 citations sur les renseignements de monsieur l'agent. » Il se regarda dans la glace de la cheminée, sur le chambranle de laquelle il y avait, à côté de la pendule, une cuvette et un pot à eau. D'un côté une carafe pleine d'eau et un verre, et de l'autre une lampe. Le juge sonna. L'huissier vint après quelques minutes. « Ai-je déjà du monde ? » demanda-t-il à l'huissier, chargé de recevoir les témoins, de vérifier leurs citations et de les placer dans leur ordre d'arrivée. « Oui, monsieur. Prenez les noms des personnes venues, apportez-moi la liste. » Les juges d'instruction, avares de leur temps, sont quelquefois obligés de conduire plusieurs instructions à la fois. Telle est la raison des longues factions que font les témoins appelés dans la pièce où se tiennent les huissiers et où retentissent les sonnettes des juges d'instruction. Après, dit Camusot à son huissier, vous irez chercher l'abbé Carlos Herrera. Ah, il est en espagnol, en prêtre, m'a-t-on dit. Bah, se renouveler de coller, monsieur Camusot, s'écria le chef de la sûreté. Il n'y a rien de neuf, répondit Camusot. Et le juge signait deux de ces citations formidables qui troublent tout le monde, même les plus innocents témoins, que la justice mande ainsi à comparoir sous des peines graves, faute d'obéir. En ce moment, Jacques Collin avait terminé, depuis une demi-heure environ, sa profonde délibération, et il était sous les armes. Rien ne peut mieux achever de peindre cette figure du peuple en révolte contre les lois que les quelques lignes qu'il avait tracé sur ses papiers graisseux. Le sens du premier était ceci, car ce fut écrit dans le langage convenu entre Asie et lui, l'argot de l'argot, le chiffre appliqué à l'idée. Va chez madame la duchesse de Maufrigneuse ou chez madame de Sérisy. Que l'une ou l'autre voie Lucien avant son interrogatoire et qu'elle lui donne à lire le papier s'y inclus. Enfin, il faut trouver Europe et Paccard, que ces deux voleurs soient à ma disposition et prêts à jouer le rôle que je leur indiquerai. Cours chez Rastignac, dis-lui, de la part de celui qui l'a rencontré au bal de l'Opéra, de venir attester que l'abbé Carlos Herrera ne ressemble en rien au Jacques Collin arrêté chez l'avocat. Obtenir pareille chose du docteur Bianchon. Faire travailler les deux femmes à Lucien dans ce but. Sur le papier inclus, il y avait en bon français. Lucien, n'avoue rien sur moi. Je dois être pour toi l'abbé Carlos Herrera. Non seulement c'est ta justification, mais encore un peu de tenue. Et tu as 7 millions, plus l'honneur sauf. Ces deux papiers, collé du côté de l'écriture, de manière à faire croire que c'était un fragment de la même feuille, furent roulés avec un art particulier à ceux qui ont rêvé dans le bagne au moyen d'être libres. Le tout prit la forme et la consistance d'une boule de crasse, grosse comme ses têtes en cire, que les femmes économes adaptent aux aiguilles dont le chat s'est rompu. Si c'est moi qui vais à l'instruction le premier, nous sommes sauvés. Mais si c'est le petit, tout est perdu, se dit-il en attendant. Ce moment était si cruel que cet homme si fort eut le visage couvert d'une sueur blanche. Ainsi, cet homme prodigieux devinait vrai dans sa sphère de crime, comme Molière dans la sphère de la poésie dramatique, comme Cuvier avec les créations disparues. Le génie en toute chose est une intuition. Au-dessous de ce phénomène, le reste des œuvres remarquables se doit au talent. En ceci consiste la différence qui sépare les gens du premier des gens du second ordre. Le crime a ses hommes de génie. Jacques Collin, aux abois, se rencontrait avec madame Camusot l'ambitieuse et avec madame de Sérisy, dont l'amour s'était réveillé sous le coup de la terrible catastrophe où s'abîmait Lucien. Tel était le suprême effort de l'intelligence humaine contre l'armure d'acier de la justice. En entendant crier la lourde ferraille des serrures et des verrous de sa porte, Jacques Collin reprit son masque de mourant. Il fut aidé par l'enivrante sensation de plaisir que lui causa le bruit des souliers du surveillant dans le corridor. Il ignorait par quel moyen Asie arriverait jusqu'à lui, mais il comptait la voir sur son passage, surtout après la promesse qu'il en avait reçue à l'arcade Saint-Jean. Après cette heureuse rencontre, Asie était descendue sur la grève. avant 1830, le nom de la grève avait un sens aujourd'hui perdu. Toute la partie du quai, depuis le pont d'Arcole jusqu'au pont Louis-Philippe, était alors telle que la nature l'avait faite, à l'exception de la voie pavée, qui d'ailleurs s'était disposée en talus. Aussi, dans les grandes eaux, pouvait-on aller en bateau le long des maisons et dans les rues en pente qui descendaient sur la rivière. Sur ce quai, les rez-de-chaussée étaient presque tous élevés de quelques marches. Quand l'eau battait le pied des maisons, les voitures prenaient par l'épouvantable rue de la Mortellerie, abattue tout entière aujourd'hui pour agrandir l'hôtel de ville. Il fut donc facile à la fausse marchande de pousser rapidement la petite voiture au bas du quai et de l'y cacher jusqu'à ce que la véritable marchande, qui d'ailleurs buvait le prix de sa vente en bloc dans un des ignobles cabarets de la rue de la Mortellerie, vint la reprendre à l'endroit où l'emprunteuse avait promis de la laisser. En ce moment, on achevait l'agrandissement du quai Pelletier. L'entrée du chantier était gardée par un invalide, et la brouette, confiée à ses soins, ne courait aucun risque. Asie prit aussitôt un fiacre sur la place de l'hôtel de ville, et dit au cocher « Au temple, et du train, il y a gras !» Une femme vêtue comme l'était Asie pouvait, sans exciter la moindre curiosité, se perdre dans la vaste halle où s'amoncellent toutes les guenilles de Paris, où grouillent 1000 marchands ambulants, où babillent 200 revendeuses. Les deux prévenues étaient à peine écrouées qu'elles se faisaient habiller dans un petit entresol humide et bas, situé au-dessus d'une de ces horribles boutiques où se vendent tous les restes d'étoffes volés par les couturières ou par les tailleurs, et tenue par une vieille demoiselle appelée la Renette, de son petit nom de Géronette. La Renette était aux marchandes à la toilette ce que ces mesdames la ressource sont elles-mêmes aux femmes, dites comme il faut, dans l'embarras, une usurière à 100%. « Ma fille, dit Asie, il s'agit de me ficeler. Je dois être au moins une baronne du faubourg Saint-Germain. Et bricolons tout plus vite que ça, reprit-elle, car j'ai les pieds dans l'huile bouillante. Tu sais quelles robes me vont. En avant le pot de rouge, trouve-moi des dentelles chouettes et donne-moi les plus reluisants bibelots. Envoie la petite chercher un fiacre et qu'elle le fasse arrêter à notre porte de derrière. « Oui, madame, répondit la vieille fille avec une soumission et un empressement de servante en présence de sa maîtresse. Si cette scène avait eu quelques témoins, il eût facilement vu que la femme cachée sous le nom d'Asie était chez elle. « On me propose des diamants, dit la Renette en coiffant Asie. Sont-ils volés ? Je le crois. Eh bien, quel que soit le profit, mon enfant, il faut s'en priver. Nous avons les curieux à craindre pendant quelque temps. » On comprend dès lors comment Asie put se trouver dans la salle des pas perdus du palais de justice, une citation à la main, se faisant guider dans les corridors et dans les escaliers qui mènent chez les juges d'instruction, et demandant Monsieur Camusot, un quart d'heure environ avant l'arrivée du juge. Asie ne se ressemblait plus à elle-même. Après avoir, comme une actrice, lavé son visage de vieille, mis du rouge et du blanc, elle s'était enveloppée la tête d'une admirable perruque blonde. Mise absolument comme une dame du faubourg Saint-Germain, en quête de son chien perdu, elle paraissait avoir 40 ans, car elle s'était caché le visage sous un magnifique voile de dentelle noire. Un corset rudement sanglé maintenait sa taille de cuisinière. Très bien gantée, armée d'une tournure un peu forte, elle exhalait une odeur de poudre à la maréchale. Badinant avec un sac à monture en or, elle partageait son attention entre les murailles du palais, où elle errait évidemment pour la première fois, et la laisse d'un joli King's Dog. Une pareille douairière fut bientôt remarquée par la population en robe noire de la salle des pas perdus. Outre les avocats sans cause, qui balayent cette salle avec leurs robes, et qui nomment les grands avocats par leur nom de baptême, à la manière des grands seigneurs entre eux, pour faire croire qu'ils appartiennent à l'aristocratie de l'ordre. On voit souvent de patients jeunes gens à la dévotion des avoués, faisant le pied de grue, à propos d'une seule cause retenue en dernier et susceptible d'être plaidée si les avocats des causes retenues en premier se faisaient attendre. Ce serait une peinture curieuse que celle des différences entre chacune des robes noires qui se promènent dans cette immense salle 3x3, quelquefois 4x4, en produisant par leur causerie l'immense bourdonnement qui retentit dans cette salle, si bien nommée, car la marche use les avocats autant que les prodigalités de la parole. Mais elle trouvera place dans l'étude destinée à peindre les avocats de Paris. Asie avait compté sur les flâneurs du palais. Elle riait sous cape de quelques plaisanteries qu'elle entendait et finit par attirer l'attention de Massol, un jeune stagiaire plus occupé de la gazette des tribunaux que par ses clients, qui mit en riant ses bons offices à la discrétion d'une femme si bien parfumée et si richement habillée. Asie prit une petite voix de tête pour expliquer à cet obligeant monsieur qu'elle se rendait à une citation d'un juge nommé Camusot. « Ah, pour l'affaire Rubempré !» Le procès avait déjà son nom. « Oh, ce n'est pas moi, c'est ma femme de chambre, une fille surnommée Europe, que j'ai eue pendant 24 heures et qui s'est enfuie en voyant que mon Suisse m'apportait ce papier timbré. Puis, comme toutes les vieilles femmes, dont la vie se passe en bavardages au coin du feu, poussée par Massol, elle fit des parenthèses, elle raconta ses malheurs avec son premier mari, l'un des trois directeurs de la caisse territoriale. Elle consulta le jeune avocat sur la question de savoir si elle devait entamer un procès avec son gendre, le comte de Grosnarp, qui rendait sa fille très malheureuse, et si la loi lui permettait de disposer de sa fortune. Massol ne pouvait, malgré ses efforts, deviner si la citation était donnée à la maîtresse ou à la femme de chambre. Dans le premier moment, il s'était contenté de jeter les yeux sur cette pièce judiciaire dont les exemplaires sont bien connus, car pour plus de célérité, elle est imprimée, et les greffiers des juges d'instruction n'ont plus qu'à remplir des blancs, ménagés pour les noms et la demeure des témoins, l'heure de la comparution, etc. Asie se faisait expliquer le palais, qu'elle connaissait mieux que l'avocat, ne le connaissait lui-même. Enfin, elle finit par lui demander à quelle heure ce monsieur Camusot venait. Mais en général, les juges d'instruction commencent leurs interrogatoires vers 10 heures. « Il est 10h15, » dit-elle, en regardant à une jolie petite montre, un vrai chef-d'œuvre de bijouterie qui fit penser à Massol. « Où la fortune va-t-elle se nicher ?» En ce moment, Asie était arrivée à cette salle obscure donnant sur la cour de la conciergerie et où se tiennent les huissiers. En apercevant le guichet à travers la croisée, elle s'écria « Qu'est-ce que c'est que ces grands murs-là » « C'est la conciergerie. »« Ah, voilà la conciergerie où notre pauvre reine. »« Oh, je voudrais bien voir son cachot. » »« C'est impossible, madame la baronne, » répondit l'avocat qui donnait le bras à la douairière. « Il faut avoir des permissions qui s'obtiennent très difficilement. »« On m'a dit, » reprit-elle, « que Louis XVIII avait fait lui-même, et en latin, l'inscription qui se trouve dans le cachot de Marie-Antoinette. »« Oui, madame la baronne. »« Oh, je voudrais savoir le latin pour étudier les mots de cette inscription-là, » répliqua-t-elle. « Croyez-vous que monsieur Camusot puisse me donner une permission ?»« Cela ne le regarde pas, mais il peut vous accompagner. »« Mais c'est interrogatoire, » dit-elle. « Oh, répondit Massol, les prévenus peuvent attendre. »« Tiens, ils sont prévenus, c'est vrai, » répliqua naïvement Asie. « Mais je connais monsieur de Granville, votre procureur général. » Cette interjection produisit un effet magique sur les huissiers et sur l'avocat. « Ah, vous connaissez monsieur le procureur général, » dit Massol, qui pensait à demander le nom et l'adresse de la cliente que le hasard lui procurait. Je le vois souvent chez monsieur de Sérisy, son ami. Madame de Sérisy est ma parente par les Ronquerolles. Mais si madame veut descendre à la conciergerie, dit un huissier.
Elle. Oui, dit Massol.
Et les huissiers laissèrent descendre l'avocat et la baronne, qui se trouvèrent bientôt dans le petit corps de garde auquel aboutit l'escalier de la souricière, local bien connu d'Asie, et qui forme, ainsi qu'on l'a vu, entre la souricière et la sixième chambre, comme un poste d'observation par où tout le monde est obligé de passer.
Demandez donc à ces messieurs si M. Camusot est venu,
dit-elle en observant les gendarmes qui jouaient aux cartes.
Oui, madame, il vient de monter de la souricière.
La souricière, dit-elle,
qu'est-ce que c'est?
Oh, suis-je bête de ne pas être allée tout droit chez le comte de Granville.
Mais je n'ai pas le temps.
Menez-moi, monsieur, parler à monsieur Camusot avant qu'il ne soit occupé.
Oh, madame, vous avez bien le temps de parler à monsieur Camusot, dit Massol.
En lui faisant passer votre carte, il vous évitera le désagrément de faire antichambre avec les témoins. On a des égards au palais pour les femmes comme vous. Vous avez des cartes.
En ce moment, Asie et son avocat se trouvaient précisément devant la fenêtre du corps de garde d'où les gendarmes peuvent voir le mouvement du guichet de la conciergerie.
Les gendarmes, nourris dans le respect dû aux défenseurs de la veuve et de l'orphelin, connaissant d'ailleurs les privilèges de la robe, tolérèrent pour quelques instants la présence d'une baronne accompagnée d'un avocat.
Asie se laissait raconter par le jeune avocat les épouvantables choses qu'un jeune avocat peut dire sur le guichet.
Elle refusa de croire qu'on fit la toilette aux condamnés à mort derrière les grilles qu'on lui désignait.
Mais le brigadier le lui affirma.
« Comme je voudrais voir cela !» dit-elle.
Elle resta là, coquetante avec le brigadier et son avocat, jusqu'à ce qu'elle vit Jacques Collin, soutenu par deux gendarmes et précédé de l'huissier de M. Camusot sortant du guichet.
Ah, voilà l'aumônier des prisons qui vient sans doute de préparer un malheureux.
Non, non, madame la baronne, répondit le gendarme, c'est un prévenu qui vient à l'instruction.
Et de quoi donc est-il accusé?
Il est impliqué dans cette affaire d'empoisonnement.
Oh, je voudrais bien le voir.
Vous ne pouvez pas rester ici, dit le brigadier, car il est au secret et va traverser notre corps de garde.
Tenez, madame, cette porte donne sur l'escalier.
Merci, monsieur l'officier, dit la baronne, en se dirigeant vers la porte pour se précipiter dans l'escalier, où elle s'écria « Mais où suis-je ?»
Cet éclat de voix alla jusqu'à l'oreille de Jacques Collin, qu'elle voulait ainsi préparer à la voir.
Le brigadier courut après madame la baronne, la saisit par le milieu du corps et la transporta comme une plume au milieu de cinq gendarmes qui s'étaient dressés comme un seul homme. Car dans ce corps de garde, on se défie de tout. C'était de l'arbitraire, mais de l'arbitraire nécessaire.
L'avocat lui-même avait poussé deux exclamations.
« Madame, madame !» pleine d'effroi, tant il craignait de se compromettre.
L'abbé Carlos Herrera, presque évanoui, s'arrêta sur une chaise dans le corps de garde.
« Pauvre homme, dit la baronne, est-ce là un coupable ?»
Ces paroles, quoique prononcées à l'oreille du jeune avocat, furent entendues par tout le monde, car il régnait dans cet affreux corps de garde un silence de mort. Quelques personnes privilégiées obtiennent quelquefois la permission de voir les fameux criminels pendant qu'ils passent dans ce corps de garde ou dans les couloirs, en sorte que l'huissier et les gendarmes chargés d'amener l'abbé Carlos Herrera ne firent aucune observation. D'ailleurs, il existait, grâce au dévouement du brigadier qui avait empoigné la baronne pour empêcher toute communication entre le prévenu mis au secret et les étrangers, un espace très rassurant.
« Allons, » dit Jacques Collin, qui fit un effort pour se lever.
En ce moment, la petite boule tomba de sa manche et la place où elle s'arrêta fut remarquée par la baronne, à qui son voile laissait la liberté de ses regards. Humide et graisseuse, la boulette n'avait pas roulé, car ces petites choses, en apparence indifférentes, étaient toutes calculées par Jacques Collin pour une complète réussite. Lorsque le prévenu fut conduit dans la partie supérieure de l'escalier, Asie lâcha très naturellement son sac et le ramassa lestement. Mais en se baissant, elle avait pris la boule que sa couleur, absolument pareille à celle de la poussière et de la boue du plancher, empêchait d'être aperçue. « Ah, dit-elle, ça m'a serré le cœur. Il est mourant. »« Où il le paraît ?» répliqua le brigadier. « Monsieur, dit Asie à l'avocat, conduisez-moi promptement chez Monsieur Camusot. Je viens pour cette affaire, et peut-être sera-t-il bien aise de me voir avant d'interroger ce pauvre abbé. » L'avocat et la baronne quittèrent le corps de garde au mur oléagineux et fuligineux. Mais quand ils furent en haut de l'escalier, Asie fit une exclamation. « Et mon chien ? Ah, monsieur, mon pauvre chien !» Et comme une folle, elle s'élança dans la salle des pas perdus, en demandant son chien à tout le monde. Elle atteignit la galerie marchande et se précipita vers un escalier en disant « Le voilà !» Cet escalier était celui qui mène à la cour de Harley, par où, sa comédie jouée, Asie alla se jeter dans un des fiacres qui stationnent au quai des Orfèvres, et elle disparut avec le mandat à comparaître lancé contre Europe, dont les véritables noms étaient encore ignorés par la police et par la justice. « Rue Neuve-Saint-Marc » cria-t-elle au cocher. Asie pouvait compter sur l'inviolable discrétion d'une marchande à la toilette appelée Madame Nourrisson, également connue sous le nom de Madame Saint-Estève, qui lui prêtait non seulement son individualité, mais encore sa boutique, où Nucingen avait marchandé la livraison d'Esther. Asie était là comme chez elle, car elle occupait une chambre dans le logement de Madame Nourrisson. Elle paya le fiacre et monta dans sa chambre, après avoir salué Madame Nourrisson, de manière à lui faire comprendre qu'elle n'avait pas le temps d'échanger deux mots. Une fois loin de tout espionnage, Asie se mit à déplier les papiers avec les soins que les savants prennent pour dérouler des palimpsestes. Après avoir lu ses instructions, elle jugea nécessaire de transcrire, sur du papier à lettres, les lignes destinées à Lucien. Puis elle descendit chez Madame Nourrisson, qu'elle fit causer pendant le temps qu'une petite fille de boutique alla chercher un fiacre sur le boulevard des Italiens. Asie eut ainsi les adresses de la duchesse de Maufrigneuse et de Madame de Sérisy, que connaissait Madame Nourrisson par ses relations avec les femmes de chambre. Ces diverses courses, ces occupations minutieuses, employèrent plus de 2 heures. Madame la duchesse de Maufrigneuse, qui demeurait en haut du faubourg Saint-Honoré, fit attendre Madame de Saint-Estève pendant 1 heure. Quoique la femme de chambre lui eût fait passer par la porte de son boudoir, après y avoir frappé, la carte de Madame de Saint-Estève, sur laquelle Asie avait écrit « Venue pour une démarche urgente concernant Lucien ». Au premier regard qu'elle jeta sur la figure de la duchesse, Asie comprit combien sa visite était intempestive. Aussi s'excusa-t-elle d'avoir troublé le repos de Madame la duchesse sur le péril dans lequel se trouvait Lucien. « Qui êtes-vous ? » demanda la duchesse, sans aucune formule de politesse, en toisant Asie, qui pouvait bien être prise pour une baronne par maître Massol dans la salle des pas perdus, mais qui, sur les tapis du petit salon de l'hôtel de Cadignan, faisait l'effet d'une tache de cambouis sur une robe de satin blanc. « Je suis une marchande à la toilette, madame la duchesse, car, en semblable conjoncture, on s'adresse aux femmes dont la profession repose sur une discrétion absolue. Je n'ai jamais trahi personne, et Dieu sait combien de grandes dames m'ont confié leurs diamants pour 1 mois en demandant des parures en faux absolument pareils aux leurs. Vous avez un autre nom ? Dit la duchesse en souriant d'une réminiscence que provoquait en elle cette réponse. Oui, madame la duchesse, je suis madame Saint-Estève dans les grandes occasions. Mais je me nomme dans le commerce, madame Nourrisson. « Bien, bien, » répliqua vivement la duchesse en changeant de ton. je puis, dit Asie en continuant, rendre de grands services, car nous avons les secrets des maris, aussi bien que ceux des femmes. J'ai fait beaucoup d'affaires avec monsieur de Marsay, que madame la duchesse. Assez, assez ! S'écria la duchesse. Occupons-nous de Lucien. Si madame la duchesse veut le sauver, il faudrait qu'elle eût le courage de ne pas perdre de temps à s'habiller. D'ailleurs, madame la duchesse ne pourrait pas être plus belle qu'elle ne l'est en ce moment. Vous êtes jolie à croquer, parole d'honneur de vieille femme. Enfin, ne faites pas atteler, madame, et montez en fiacre avec moi. Venez chez madame de Sérisy. Si vous voulez éviter des malheurs, plus grands que ne le serait celui de la mort de ce chérubin. Allez, je vous suis, dit alors la duchesse, après un moment d'hésitation. À nous deux, nous donnerons du courage à Léontine. Malgré l'activité vraiment infernale de cette Dorine du bagne, 2 heures sonnaient, quand elle entrait avec la duchesse de Maufrigneuse chez madame de Sérisy, qui demeurait rue de la Chaussée-d'Antin. Mais là, grâce à la duchesse, il n'y eut pas un instant de perdu. Toutes deux, elles furent aussitôt introduites auprès de la comtesse, qu'elles trouvèrent couchée sur un divan dans un chalet en miniature, au milieu d'un jardin embaumé par les fleurs les plus rares. « C'est bien, » dit Asie en regardant autour d'elle. « On ne pourra pas nous écouter. »« Ah, ma chère, je me meurs. Voyons, Diane, qu'as-tu fait ?» s'écria la comtesse, qui bondit comme un faon en saisissant la duchesse par les épaules et fondant en larmes. « Allons, Léontine, il y a des occasions où les femmes comme nous ne doivent pas pleurer, mais agir, » dit la duchesse, en forçant la comtesse à se rasseoir avec elle sur le canapé. Asie étudia cette comtesse avec ce regard particulier aux vieilles rouées, et qu'elle promène sur l'âme d'une femme avec la rapidité des bistouris de la chirurgie fouillant une plaie. La compagne de Jacques Collin reconnut alors les traces du sentiment le plus rare chez les femmes du monde, une vraie douleur. Cette douleur qui fait des sillons ineffaçables dans le cœur et sur le visage. Dans la mise, pas la moindre coquetterie. La comtesse comptait alors 45 printemps, et son peignoir en mousseline imprimé et chiffonné laissait voir le corsage sans aucune préparation ni corset. Les yeux cerclés d'un tour noir, les joues marbrées attestaient des larmes amères. Pas de ceinture au peignoir. Les broderies de la jupe de dessous et de la chemise étaient fripées. Les cheveux, ramassés sous un bonnet de dentelle, ignorant les soins du peigne depuis 24 heures, montraient une courte natte grêle et toutes les mèches à boucles dans leur pauvreté. Léontine avait oublié de mettre ses fausses nattes. « Vous aimez pour la première fois de votre vie, » lui dit sentencieusement Asie. Léontine aperçut alors Asie et fit un mouvement d'effroi. « Qui est-ce, ma chère Diane ? » dit-elle à la duchesse de Maufrigneuse. « Qui veux-tu que je t'amène, si ce n'est une femme dévouée à Lucien et prête à nous servir ?» Asie avait deviné la vérité. Madame de Sérisy, qui passait pour être une des femmes du monde les plus légères, avait eu pour le marquis d'Aiglemont un attachement de 10 années. Depuis le départ du marquis pour les colonies, elle était devenue folle de Lucien. Il avait détaché de la duchesse de Maufrigneuse, ignorant comme tout Paris d'ailleurs, l'amour de Lucien pour Esther. Dans le grand monde, un attachement constaté gâte plus la réputation d'une femme que 10 aventures secrètes. À plus forte raison, 2 attachements. Néanmoins, comme personne ne comptait avec madame de Sérisy, l'historien ne saurait garantir sa vertu à 2 écornures. C'était une blonde de moyenne taille, conservée comme les blondes qui se sont conservées, c'est-à-dire paraissant à peine avoir 30 ans, fluette, sans maigreur, blanche, à cheveux cendrés, les pieds, les mains, le corps, d'une finesse aristocratique, spirituelle, comme une ronquerolle, et par conséquent, aussi méchante pour les femmes qu'elle était bonne pour les hommes. Elle avait toujours été préservée par sa grande fortune, par la haute position de son mari, par celle de son frère, le marquis de Ronquerolles, des déboires dont eût été sans doute abreuvée toute autre femme qu'elle. Elle avait un grand mérite. Elle était franche dans sa dépravation. Elle avouait son culte pour les mœurs de la régence. Or, à 42 ans, cette femme, pour qui les hommes avaient été jusque-là d'agréables jouets, et à qui, chose étrange, elle avait accordé beaucoup en ne voyant dans l'amour que des sacrifices à subir pour les dominer, avait été saisie à l'aspect de Lucien par un amour semblable à celui du baron de Nucingen pour Esther. Elle avait alors aimé, comme venait de le lui dire Asie, pour la première fois de sa vie. Ces transpositions de jeunesse sont plus fréquentes qu'on ne le croit chez les Parisiennes, chez les grandes dames, et causent les chutes inexplicables de quelques femmes vertueuses au moment où elles atteignent au port de la quarantaine. La duchesse de Maufrigneuse était la seule confidente de cette passion terrible et complète, dont les bonheurs, depuis les sensations enfantines du premier amour jusqu'aux gigantesques folies de la volupté, rendaient Léontine folle et insatiable. L'amour vrai, comme on sait, est impitoyable. La découverte d'une Esther avait été suivie d'une de ces ruptures colériques où, chez les femmes, la rage va jusqu'à l'assassinat. Puis la période des lâchetés auxquelles l'amour sincère s'abandonne avec tant de délices était venue. Aussi, depuis un mois, la comtesse aurait-elle donné 10 ans de sa vie pour revoir Lucien pendant 8 jours. Enfin, elle en était arrivée à accepter la rivalité d'Esther, au moment où, dans ce paroxysme de tendresse, avait éclaté, comme une trompette du jugement dernier, la nouvelle de l'arrestation du bien-aimé. La comtesse avait failli mourir. Son mari l'avait gardée lui-même au lit, en craignant les révélations du délire. Et depuis 24 heures, elle vivait avec un poignard dans le cœur. Elle disait dans sa fièvre à son mari: « Délivre Lucien, et je ne vivrai plus que pour toi. » Il ne s'agit pas de faire des yeux de chèvre morte, comme dit madame la duchesse, s'écria la terrible Asie en secouant la comtesse par le bras. Si vous voulez le sauver, il n'y a pas une minute à perdre. Il est innocent, je le jure sur les os de ma mère. « Oh oui, n'est-ce pas ? » cria la comtesse, en regardant avec bonté l'affreuse commère. « Mais, dit Asie en continuant, si monsieur Camusot l'interroge mal, avec 2 phrases, il peut en faire un coupable. Et si vous avez le pouvoir de vous faire ouvrir la conciergerie et de lui parler, partez à l'instant et remettez-lui ce papier. Demain, il sera libre, je vous le garantis. Tirez-le de là, car c'est vous qui l'y avez mis. Moi ? Oui, vous. Vous autres, grandes dames, vous n'avez jamais le sou, même quand vous êtes riches à millions. Quand je me donnais le luxe d'avoir des gamins, ils avaient leurs poches pleines d'or. Je m'amusais de leur plaisir. C'est si bon d'être à la fois mère et maîtresse. Vous autres, vous laissez crever de faim les gens que vous aimez, sans vous enquérir de leurs affaires. Esther, elle, ne faisait pas de phrases. Elle a donné, au prix de la perdition de son corps et de son âme, le 1 000 000 qu'on demandait à votre Lucien. Et c'est ce qui l'a mis dans la situation où il est. Pauvre fille, elle a fait cela. Je l'aime, dit Léontine. Ah, maintenant, dit Asie, avec une ironie glaciale. Elle était bien belle. Mais maintenant, mon ange, tu es bien plus belle qu'elle. Et le mariage de Lucien avec Clotilde est si bien rompu que rien ne peut le remmancher, dit tout bas la duchesse à Léontine. L'effet de cette réflexion et de ce calcul fut tel sur la comtesse qu'elle ne souffrit plus. Elle se passa les mains sur le front, elle fut jeune. « Allons, ma petite, oh la patte et du train !» dit Asie, qui vit cette métamorphose et en devina le ressort. « Mais, dit madame de Maufrigneuse, S'il faut empêcher avant tout Monsieur Camusot d'interroger Lucien, nous le pouvons en lui écrivant deux mots que nous allons envoyer au palais par ton valet de chambre, Léontine. Rentrons alors chez moi, dit Madame de Sérisy. Voici ce qui se passait au palais pendant que les protectrices de Lucien obéissaient aux ordres tracés par Jacques Collin. Les gendarmes transportèrent le moribond sur une chaise placée en face de la croisée dans le cabinet de Monsieur Camusot, qui se trouvait assis dans son fauteuil devant son bureau. Coquart, sa plume à la main, occupait une petite table à quelques pas du juge. La situation des cabinets des juges d'instruction n'est pas indifférente, et si ce n'est pas avec l'intention qu'elle a été choisie, on doit avouer que le hasard a traité la justice en sœur. Ces magistrats sont comme les peintres. Ils ont besoin de la lumière égale et pure qui vient du Nord, car le visage de leur criminel est un tableau dont l'étude doit être constante. Aussi, presque tous les juges d'instruction placent-ils leur bureau comme était celui de Camusot, de manière à tourner le dos au jour et conséquemment à laisser la face de ceux qu'ils interrogent exposée à la lumière. Pas un d'eux, au bout de 6 mois d'exercice, ne manque à prendre un air distrait, indifférent, quand il ne porte pas des lunettes, tant que dure un interrogatoire. C'est à un subit changement de visage, observé par ce moyen, et causé par une question faite à brûle-pourpoint, que fut due la découverte du crime commis par Castaing, au moment où, après une longue délibération avec le procureur général, le juge allait rendre ce criminel à la société, faute de preuves. Ce petit détail peut indiquer aux gens les moins compréhensifs combien est vive, intéressante, curieuse, dramatique et terrible la lutte d'une instruction criminelle. Lutte sans témoin, mais toujours écrite. Dieu sait ce qui reste sur le papier de la scène la plus glacialement ardente, où les yeux, l'accent, un tressaillement dans la face, la plus légère touche de coloris ajoutée par un sentiment. Tout a été périlleux, comme entre sauvages qui s'observent pour se découvrir et se tuer. Un procès-verbal, ce n'est donc plus que les cendres de l'incendie. « Quels sont vos véritables noms ?» demanda Camusot à Jacques Collin. « Don Carlos Herrera, chanoine du chapitre royal de Tolède, envoyé secret de Sa Majesté Ferdinand VII. » Il faut faire observer ici que Jacques Collin parlait le français comme une vache espagnole, en baragouinant, de manière à rendre ses réponses presque inintelligibles et à s'en faire demander la répétition. Les germanismes de M. de Nucingen ont déjà trop émaillé cette scène pour y mettre d'autres phrases soulignées, difficiles à lire, et qui nuiraient à la rapidité d'un dénouement. « Vous avez des papiers qui constatent les qualités dont vous parlez ?» demanda le juge. « Oui, monsieur. Un passeport, une lettre de Sa Majesté catholique qui autorise ma mission. Enfin, vous pouvez envoyer immédiatement à l'ambassade d'Espagne deux mots que je vais écrire devant vous. Je serai réclamé. Puis si vous avez besoin d'autres preuves, j'écrirai à son éminence, le grand aumônier de France, et il enverrait aussitôt ici son secrétaire particulier. Vous prétendez-vous toujours mourant ? Dit Camusot. Si vous aviez véritablement éprouvé les souffrances dont vous vous êtes plaint depuis votre arrestation, vous devriez être mort, reprit le juge avec ironie. Vous faites le procès au courage d'un innocent et à la force de son tempérament, répondit avec douceur le prévenu. Coquart, sonnez. Faites venir le médecin de la conciergerie et un infirmier. Nous allons être obligés de vous ôter votre redingote et de procéder à la vérification de la marque sur votre épaule, reprit Camusot. Monsieur, je suis entre vos mains. Le prévenu demanda si son juge aurait la bonté de lui expliquer ce qu'était cette marque et pourquoi la chercher sur son épaule. Le juge s'attendait à cette question. Vous êtes soupçonné d'être Jacques Collin, forçat évadé, dont l'audace ne recule devant rien, pas même devant le sacrilège, dit vivement le juge en plongeant son regard dans les yeux du prévenu. Jacques Collin ne tressaillit pas, ne rougit pas. Il resta calme et prit un air naïvement curieux en regardant Camusot. « Moi, monsieur, un forçat, que l'ordre auquel j'appartiens et Dieu vous pardonne d'une pareille méprise. Dites-moi tout ce que je dois faire pour vous éviter de persister dans une insulte si grave envers le droit des gens, envers l'Église, envers le roi, mon maître. » Le juge expliqua, sans répondre au prévenu, que s'il avait subi la flétrissure infligée alors par les lois aux condamnés aux travaux forcés, en lui frappant l'épaule, les lettres reparaîtraient aussitôt. « Ah, monsieur, dit Jacques Collin, il serait bien malheureux que mon dévouement à la cause royale me devint funeste. « Expliquez-vous, dit le juge, vous êtes ici pour cela. « Eh bien, monsieur, je dois avoir bien des cicatrices dans le dos, car j'ai été fusillé par derrière, comme traître au pays, tandis que j'étais fidèle à mon roi, par les constitutionnels qui m'ont laissé pour mort. « Vous avez été fusillé, et vous vivez, dit Camusot. J'avais quelques intelligences avec les soldats, à qui des personnes pieuses avaient remis quelque argent, et alors ils m'ont placé si loin que j'ai seulement reçu des balles presque mortes. Les soldats ont visé le dos. C'est un fait que son Excellence l'ambassadeur pourra vous attester. » Ce diable d'homme a réponse à tout. Tant mieux d'ailleurs, pensait Camusot, qui ne paraissait si sévère que pour satisfaire aux exigences de la justice et de la police. Comment un homme de votre caractère s'est-il trouvé chez la maîtresse du baron de Nucingen? Et quelle maîtresse! Une ancienne fille! Voici pourquoi l'on m'a trouvée dans la maison d'une courtisane, monsieur, répondit Jacques Collin. Mais avant de vous dire la raison qui m'y conduisait, je dois vous faire observer qu'au moment où je franchissais la première marche de l'escalier, j'ai été saisi par l'invasion subite de ma maladie. Je n'ai donc pas pu parler à temps à cette fille. J'avais eu connaissance du dessein que méditait Mademoiselle Esther de se donner la mort, et comme il s'agissait des intérêts du jeune Lucien de Rubempré, pour qui j'ai une affection particulière, dont les motifs sont sacrés, j'allais essayer de détourner la pauvre créature de la voie où la conduisait le désespoir. Je voulais lui dire que Lucien devait échouer dans sa dernière tentative auprès de Mademoiselle Clotilde, et en lui apprenant qu'elle héritait de 7 millions, j'espérais lui rendre le courage de vivre. J'ai la certitude, monsieur le juge, d'avoir été la victime des secrets qui me furent confiés. À la manière dont j'ai été foudroyé, je pense que le matin même, on m'avait empoisonné. Mais la force de mon tempérament m'a sauvé. Je sais que depuis longtemps, un agent de la police politique me poursuit et cherche à m'envelopper dans quelque méchante affaire. Si sur ma demande, lors de mon arrestation, vous aviez fait venir un médecin, vous auriez eu la preuve de ce que je vous dis en ce moment sur l'état de ma santé. Croyez, monsieur, que des personnages placés au-dessus de nous ont un intérêt violent à me confondre avec quelque scélérat pour avoir le droit de se défaire de moi. Ce n'est pas tout gain que de servir les rois. Ils ont leur petitesse, mais l'Église seule est parfaite. Il est impossible de rendre le jeu de physionomie de Jacques Collin, qui mit avec intention 10 minutes à dire cette tirade phrase à phrase. Tout en était si vraisemblable, surtout l'allusion à Corentin, que le juge en fut ébranlé. « Pouvez-vous me confier les causes de votre affection pour M. Lucien de Rubempré ? Ne les devinez-vous pas ? J'ai 60 ans, monsieur. Je vous en supplie. « N'écrivez pas cela. C'est... Faut-il donc absolument ? Il est dans votre intérêt, et surtout dans celui de Lucien de Rubempré, de tout dire, répondit le juge. « Eh bien, c'est... Oh mon Dieu, c'est mon fils, ajouta-t-il en murmurant, et il s'évanouit. « N'écrivez pas cela, Coquart, dit Camusot tout bas. Coquart se leva pour aller prendre une petite fiole de vinaigre des 4 voleurs. « Si c'est Jacques Collin, c'est un bien grand comédien. pensait Camusot. Coquart faisait respirer du vinaigre au vieux forçat que le juge examinait avec une perspicacité de lynx et de magistrat. « Il faut lui faire ôter sa perruque, » dit Camusot, en attendant que Jacques Collin eût repris ses sens. Le vieux forçat entendit cette phrase et frémit de peur, car il savait quelle ignoble expression prenait alors sa physionomie. « Si vous n'avez pas la force d'ôter votre perruque, oui, Coquart, ôtez-la, » dit le juge à son greffier. Jacques Collin avança la tête vers le greffier avec une résignation admirable. Mais alors, sa tête dépouillée de cet ornement fut épouvantable à voir. Elle eut son caractère réel. Ce spectacle plongea Camusot dans une grande incertitude. En attendant le médecin et un infirmier, il se mit à classer et à examiner tous les papiers et les objets saisis au domicile de Lucien. Après avoir opéré rue Saint-Georges, chez Mademoiselle Esther, la justice était descendue quai Malaquais y faire ses perquisitions. « Vous mettez la main sur les lettres de Madame la Comtesse de Sérisy, » dit Carlos Herrera. « Mais je ne sais pas pourquoi vous avez presque tous les papiers de Lucien, » ajouta-t-il, avec un sourire foudroyant d'ironie pour le juge. Camusot, en recueillant ce sourire, comprit l'étendue du mot « presque ». Lucien de Rubempré, soupçonné d'être votre complice, est arrêté, répondit-il, en voulant voir quel effet produirait cette nouvelle sur son prévenu. Vous avez fait un grand malheur, car il est tout aussi innocent que moi, répondit le faux Espagnol, sans montrer la moindre émotion. Nous verrons. Nous n'en sommes encore qu'à votre identité, reprit Camusot, surpris de la tranquillité du prévenu. Si vous êtes réellement Don Carlos Herrera, ce fait changerait immédiatement la situation de Lucien Chardon. Oui, c'était bien Madame Chardon, Mademoiselle de Rubempré, dit Carlos en murmurant. Ah, c'est une des plus grandes fautes de ma vie. Il leva les yeux au ciel, et à la manière dont il agita ses lèvres, il parut dire une prière fervente. Mais si vous êtes Jacques Collin, s'il a été sciemment le compagnon d'un forçat évadé, d'un sacrilège, tous les crimes que la justice soupçonne deviennent plus que probables. Carlos Herrera fut de bronze en écoutant cette phrase habilement dite par le juge, et pour toute réponse à ces mots, sciemment, forçat évadé, il levait les mains par un geste noblement douloureux. « Monsieur l'abbé, reprit le juge, avec une excessive politesse. Si vous êtes Don Carlos Herrera, vous nous pardonnerez tout ce que nous sommes obligés de faire dans l'intérêt de la justice et de la vérité. » Jacques Collin devina le piège au seul son de la voix du juge quand il prononça « Monsieur l'abbé ». La contenance de cet homme fut la même. Camusot attendait un mouvement de joie qu'eût été comme un premier indice de la qualité de forçat par le contentement ineffable du criminel trompant son juge. Mais il trouva le héros du bagne sous les armes de la dissimulation la plus machiavélique. « Je suis diplomate, et j'appartiens à un ordre où l'on fait des vœux bien austères, » répondit Jacques Collin avec une douceur apostolique. « Je comprends tout, et je suis habitué à souffrir. Je serai déjà libre, si vous aviez découvert chez moi la cachette où sont mes papiers, car je vois que vous n'avez saisi que des papiers insignifiants. » Ce fut un coup de grâce pour Camusot. Jacques Collin avait déjà contrebalancé, par son aisance et sa simplicité, tous les soupçons que la vue de sa tête avait fait naître. « Où sont ces papiers ? Je vous en indiquerai la place, si vous voulez faire accompagner votre délégué par un secrétaire de la légation de l'ambassade d'Espagne, qui les recevra et à qui vous en répondrez, car il s'agit de mon état, de pièces diplomatiques et de secrets qui compromettent le feu roi Louis XVIII. Ah, monsieur, il vaudrait mieux... Enfin, vous êtes magistrat. D'ailleurs, l'ambassadeur, à qui j'en appelle de tout ceci, appréciera. » En ce moment, le médecin et l'infirmier entrèrent après avoir été annoncés par l'huissier. « Bonjour, monsieur Lebrun, » dit Camusot au médecin. « Je vous requiers pour constater l'état où se trouve le prévenu que voici. Il dit avoir été empoisonné, il prétend être à la mort depuis avant-hier. Voyez s'il y a du danger à le déshabiller et à procéder à la vérification de la marque. » Le docteur Lebrun prit la main de Jacques Collin, lui tâta le pouls, lui demanda de présenter la langue et le regarda très attentivement. Cette inspection dura 10 minutes environ. « Le prévenu, répondit le docteur, a beaucoup souffert, mais il jouit en ce moment d'une grande force. Cette force factice est due, monsieur, à l'excitation nerveuse que me cause mon étrange situation, répondit Jacques Collin avec la dignité d'un évêque. « Cela se peut, dit monsieur Lebrun. Sur un signe du juge, le prévenu fut déshabillé. On lui laissa son pantalon, mais on le dépouilla de tout, même de sa chemise. Et alors, on put admirer un torse velu d'une puissance cyclopéenne. C'était l'Hercule Farnèse de Naples, sans sa colossale exagération. À quoi la nature destine-t-elle des hommes ainsi bâtis ? Dit le médecin à Camusot. L'huissier revint avec cette espèce de batte en ébène qui, depuis un temps immémorial, est l'insigne de leur fonction et qu'on appelle une verge. Il en frappa plusieurs coups à l'endroit où le bourreau avait appliqué les fatales lettres. 17 trous reparurent alors, tous capricieusement distribués. Mais malgré le soin avec lequel on examina le dos, on ne vit aucune forme de lettre. Seulement l'huissier fit observer que la barre du T se trouvait indiquée par 2 trous, dont l'intervalle avait la longueur de cette barre entre les 2 virgules qui la terminent à chaque bout, et qu'un autre trou marquait le point final du corps de la lettre. « C'est néanmoins bien vague, » dit Camusot, en voyant le doute peint sur la figure du médecin de la conciergerie. Carlos demanda qu'on fît la même opération sur l'autre épaule, et au milieu du dos. 15 d'autres cicatrices reparurent que le docteur observa sur la réclamation de l'Espagnol. Et il déclara que le dos avait été si profondément labouré par des plaies que la marque ne pourrait reparaître dans le cas où l'exécuteur lui aurait imprimé. En ce moment, un garçon de bureau de la préfecture de police entra, remit un pli à M. Camusot et demanda la réponse. Après avoir lu, le magistrat alla parler à Coquart, mais si bien dans l'oreille que personne ne put rien entendre. Seulement, à un regard de Camusot, Jacques Collin devina qu'un renseignement sur lui venait d'être transmis par le préfet de police. « J'ai toujours l'ami de Peyrade sur les talons, » pensa Jacques Collin. « Si je le connaissais, je me débarrasserais de lui comme de Contenson. Pourrais-je encore revoir une fois Asie ?» Après avoir signé le papier écrit par Coquart, le juge le mit sous enveloppe et le tendit au garçon de bureau des délégations.